Galien, tous les mois, écrit une lettre amicale au pape Luc. Il faut le rassurer sur ce que fait le groupe. Galien se sent gêné d'écrire au pape et a l'impression d'écrire à une personne qu'il aime et qui lui manque. Il lui écrit de ne pas se faire de soucis, que les expériences que l'on fait avec l'ADN peuvent aider l'humanité, que ça peut aider à la recherche sur la guérison du cancer, pour remplacer les organes d'une façon naturelle, en prenant un bout de peau pour refaire l'organe. Ça peut aider pour la faim dans le monde, que tout est positif. Le pape, qui a un fait pour Galien, lui écrit. Je vous donne carte blanche. J'ai confiance en vous. Moi, j'aimerais vous parler, vous voir. Je veux avoir de vos nouvelles. Comment vous vivez-vous? Avez-vous une amie? J'aimerais tout connaître de vous. Et pourtant, quelque chose me dit en moi que je sais déjà tout sur vous. Il me semble connaître jusqu'à votre plus intime personne. Je vous avouerai ce que je rêve de vous et que je nous vois ensemble. Chose étrange, c'est qu'officiellement, nous connaissons à peine, mais j'ai l'impression d'être très près de vous connaître, de vous toucher. C'est la première fois qu'une chose pareille se produit. Je n'ai jamais pensé à une personne que je pense à vous. Vous devez me prendre pour un original, un fou. Mais je ne suis pas cela. Quelque chose en moi me dit que c'est vrai, tout ça. Tout ce que j'ai ressenti pour vous a été. Je m'aperçois, c'est ce que je vous écris, peut-être porté contre moi. Mais je ne veux pas déchirer cette lettre. Je veux que vous la lisiez pour le savoir. Mais vous, je vous en conjure, ne la faites lire à personne. Vous savez, nous pourrions être heureux si nous étions ensemble. Je crois qu'il faut que j'arrête. Je crois que je deviens fou. Si ma mère savait tout ça, elle en mourrait. Avant, j'étais pas comme ça. C'est depuis cette satanée opération que j'ai eue en France. Savoir ce que l'on m'a fait. C'est comme si j'étais devenu un autre, tout en étant le même. Deux êtres sont en moi. Aidez-moi, aidez-moi à retrouver ma sérénité. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Oh, mon tout ami, tu es mon double. J'ai besoin de tes douces paroles. Galien, en terminant cette lettre, est surpris. Il la relit et repère des choses. Son opération à Paris, depuis plus le même, comme s'il était un autre avec lui. Que m'a-t-on fait? Deux êtres en moi. Il replie la lettre et la met dans son portefeuille. Tout cela lui rappelle les expériences que fait Riquin. Il se dit, on a dû opérer le futur pape, on a dû l'opérer dans la clinique. Il prend son téléphone, fait un numéro. Allô, dites à monsieur Danfort que je veux le voir tout de suite.
C'est un ordre.
Il faudra bien qu'il me dise la vérité, celui-là. Je suis le président. Ce n'est pas lui. On a frappé à la porte. Entrez. Entre d'Amfort. Approchez-vous, monsieur d'Amfort, et venez vous asseoir. Vous voulez me demander quelque chose, monsieur le président ? Oui, j'aimerais savoir si le pape Luc a été hospitalisé chez nous durant son séjour en France avant qu'il ne devienne pape.
Non, je ne vois pas vraiment. Galien lui dit.
Parce que moi je crois que monseigneur Donetti a été hospitalisé chez nous et que vous lui avez fait une opération spéciale. Mis quelque chose dans son cerveau, ou peut-être plus.
Qui vous fait dire ça ?
Ceci. Il sort de son portefeuille la lettre du pape. Je ne peux vous la faire lire, elle est trop confidentielle, mais elle prouve que ce pauvre homme a un dédoublement de la personnalité. L'enfant lui dit :
cela arrive souvent. Il n'y a pas besoin d'opération. C'est une maladie mentale, hélas, Galien lui dit.
Je veux bien le croire, mais dans ce cas, c'est plus spécial, plus particulier. Il me parle de choses que si même il s'était dédoublé, comme vous le dites, il n'aurait pas pu m'en parler. Non, c'est plus que ça. C'est pas de la folie, mais il y a deux personnalités en lui. Lui et une autre personne. Alors, je vous demande de tout me dire, monsieur d'Amfort.
D'Amfort lui dit : mais je vous dis tout, monsieur le président. Galien tape du poing sur la table et lui dit : vous me prenez pour un imbécile ? Il se passe des tas de choses qu'on ne me dit pas. Je le sais. Beaucoup de ces choses ne me plaisent pas du tout. Mais je vous laisse faire. Mais cette fois, c'est autre chose. Cela touche à ma vie, à ma vie la plus intime.
Vous êtes allé trop loin. Je veux savoir ce que vous avez fait à ce pauvre pape. L'enfant lui dit.
Il était arrivé dans nos services dans un état lamentable. Il allait mourir. Son cerveau n'était plus bon que de moitié. Alors nous l'avons opéré et changé sa moitié morte. Galien lui demande.
Quelle moitié avez-vous mis ?
L'enfant lui dit, je ne sais plus, un cerveau d'une personne déjà morte, dans notre congélateur. Il fallait faire très vite, autrement il allait mourir. Alors on a pris, comme ça, au hasard.
Galien lui dit, vous en êtes sûr que vous avez pris au hasard ?
Oui. Alors pourquoi ce cerveau de remplacement savait-il tant de choses sur moi ? L'enfant sursaute, je ne sais pas.
Galien lui dit, peut-être qu'il me connaissait ?
Oui. Peut-être. Galien a tapé du poing sur la table.
Je vous avais bien dit de ne jamais toucher au cerveau de Guillaume.
Vous l'avez mis dans le corps du pape, un vieux de 60 ans. Vous m'avez désobéi. Vous m'avez pris Guillaume et violé sa tombe. Son corps est vide et restera toujours vide. Ce que vous avez fait là, je ne peux vous le pardonner. Vous m'avez blessé au plus profond de mon être. Je vous avais pourtant bien dit de ne jamais toucher à Guillaume sans mon autorisation. Qu'il était en conservation pour plus tard, pour le remettre en vie comme il était.
L'enfant lui dit,
j'ai peut-être... Oui, on peut peut-être résoudre de cette façon-là. On peut reprendre le cerveau et le remettre comme il était. Nous avons un disquette de sa mémoire et son ADN. On peut tout lui remettre sur lui et lui enlever tout ce qu'il sait sur l'autre. Cela peut se faire sans difficulté. Le cerveau n'aura aucune séquelle. Et en plus, cela nous a prouvé qui était en bon état de marche malgré les mois d'hivernation. Quant à son corps, il a été nettoyé avant de le remettre. Il est comme neuf. Galien lui dit, « C'est impossible, comment enlever le cerveau du pape ?» L'enfant lui dit, « On trouvera bien un prétexte. » Galien lui dit, « Et lui mettre quoi à sa place ?» L'enfant lui dit, « Son ancien cerveau. Mais il risquera d'être moins pour la France. » Galien lui demande, « Et Guillaume, qu'est-ce que vous allez en faire ?»«
Si vous voulez, on peut le faire revivre, mais en secret. »
« Alors, je lance cette nouvelle opération. » Galien réfléchit et lui dit, « J'ai deux solutions à prendre. Ou je vous renvoie, ou je vous fais lancer cette nouvelle opération. Je vais étudier la chose, le pour et le contre. Et si le pape est contre moi, et Guillaume, comment va-t-il réagir ? Je vais vous demander... c'est d'attendre un peu. Je donnerai ma réponse dans une heure. De toute façon, telle qu'elle soit, je ne vous fais plus confiance. Allez, et attendez mes ordres. »
Et Edenfort se lève et sort.
Galien réfléchit et se demande ce qu'il doit décider. Si le pape est contre nous, ce sera la guerre, et en plus, la ruine. Et toutes ces expériences qui sont faites seront arrêtées. Peut-être qu'il y en a qui pourraient aider les hommes pour les soigner, les nourrir. Et si le monde sait qu'on en a mis un cerveau à nous, au pape, l'on va nous tuer. Mais si on enlève le cerveau de Guillaume, on pourra peut-être le faire revivre. Oui, ce sera merveilleux. On ne le dira à personne. Je le cacherai. Mais pourquoi ce enfant l'a-t-il pas fait avant? Pourquoi avoir voulu prendre le cerveau de Guillaume? Il y a de tant de cerveaux.
Plus tard.
Allô? Dites à M. Edenfort qu'il peut venir à mon bureau. De suite, oui. Merci. Entrez. Entre Edenfort. Venez vous asseoir, M. Edenfort.
Bien, M. le Président.
Voilà, j'ai décidé, c'est que le plan pour prendre le cerveau de Guillaume au pape peut avoir lieu, dans la plus grande discrétion. Personne ne doit le savoir, puisqu'autrement ce sera la guerre. Mais je veux, c'est que vous remettiez le cerveau de Guillaume dans son corps, et après, vous le refaites vivre, là aussi dans la plus grande discrétion.
Bien, monsieur, ce sera fait.
Galien lui dit aussi, on ne peut pas mettre dans le cerveau du pape des informations qui iraient de notre côté. Edenfort réfléchit et lui dit,
oui, peut-être, mais cela prendrait un peu de temps.
Faites-le. J'aimerais aussi c'est vous demander une chose. C'est pourquoi vous avez pris le cerveau de Guillaume au lieu d'un autre. Edenfort lui répond,
c'est parce que il nous fallait une personne qui ait eu des sentiments pour vous, comme cela. L'on était sûr qu'il serait toujours de notre côté.
Galien lui dit, oui, mais vous avez mis dans l'embarras ce pauvre pape qui ne savait plus où il en était et ce qu'il disait. Bien,
Je vous laisse vous occuper de cette affaire. Vous me tenez au courant. Et désormais, je tiens à être tenu au courant de tout ce qui se passe dans le groupe.
Bien, monsieur le président. Vous pouvez disposer.
D'Anfort dans son bureau.
Allô? Ici D'Anfort, j'aimerais parler à Riquin, s'il vous plaît. C'est très urgent. Oui, merci. Allô, Riquin? Ici D'Anfort. J'aimerais que vous puissiez venir à mon bureau de toute urgence. Je vous expliquerai. Alors à tout de suite.
Une demi-heure plus tard.
Entrez.
Monsieur Riquin.
Venez vous asseoir, monsieur Riquin.
Bien.
Il faut absolument arranger cette affaire. L'élu est furieux. À cause de ça, il faut être au courant de tout. Mais si vous lui redonnez Guillaume, il sera tellement heureux qu'il en oubliera de se mettre au courant.
Riquin lui dit, « Vous parlez l'élu. C'est très normal qu'il veuille être au courant. C'est son rôle. Si vous l'empêchez de jouer son rôle, vous êtes en très grande faute. »
D'Anfort lui dit,
« Oui, mais que faire? Il ne supporte pas d'apprendre certaines choses. Pourtant, il faut que nous avancions dans nos expériences. Les sept soleils ont un but. »
Riquin lui demande, « Alors que faire de l'élu ?»
D'Anfort lui dit, « Rien. »
Mais puisqu'il n'est pas de notre côté,
il faut bien qu'il le soit. C'est lui qui est responsable de tout pour ce que nous faisons, même s'il ne sait pas ce que l'on fait.
Riquin lui dit, mais si l'élu ne sert à rien, l'enfant lui dit,
il sert à être responsable. Et puis, nous avons mis de l'ADN de Dieu. Bien, il faut absolument prendre le pape pour lui faire ce transfert.
Le pape reçoit une lettre du primat des Gaules lui demandant de venir à la fête du Saint-Curé d'Ars.
Que vous l'avez manqué une fois, cela fera tellement plaisir aux Français. La France, qui est la fille aînée de l'Église, et votre présence renforcerait le catholique de ce pays qui en a bien besoin. Entre toutes les Celtes, ses religions, le catholique se sent bien isolé. Et le Saint-Curé d'Ars est une bonne chose, car c'est un homme simple qui se battait pour des gens simples. La cérémonie aura lieu dans un mois, le 26 mai, à Ars. Vous pourrez partir la veille en avion jusqu'à Saint-Eulas, et ensuite une voiture vous y mènera. Ce voyage rappelle de mauvais souvenirs au pape, mais en même temps,
il serait heureux d'aller en France. Il décide de faire venir son secrétaire pour lui demander son avis.
Allô ? Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, dans mon bureau ? J'ai quelque chose à vous demander. Oui, tout de suite. Merci. Entrez.
Entrez, secrétaire.
Venez vous asseoir, mon fils.
Bien, votre éminence. Le nouveau secrétaire est un petit homme à cheveux gris.
Voilà, j'ai reçu cette lettre de France. Lisez-la.
Il la lit.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le secrétaire lui dit :
Si vous allez en France, cela sera très mal vu par les autres pays. Avec ce qui s'est passé, l'on va me dire que nous sommes en connivence avec ce pays qui cherche à dominer le monde. Il vaut mieux ne pas y aller.
Que leur dire ?
Vous leur direz que votre emploi du temps vous empêche de venir.
Le pape fait cette réponse au primat des Gaules, qui la donne à D'Anfort, son ami. D'Anfort lui dit :
Que faut-il faire ?
Le primat lui dit : Le pape a parlé. Pendant ce temps, le cerveau du pape a été revigoré, remis à température, les vaisseaux connectés à du sang et de l'oxygène. Puis, on l'a branché et bombardé de rayons laser. Ces centres nerveux sont connectés à un ordinateur pour les informations. Au bout de soins intensifs, les réflexes reviennent, puis après un long moment, la mémoire se remet en route. On lui pose des questions, il répond, puis on lui envoie des messages sur sa vie, qu'il a depuis sa déconnexion, des élections papales, les ennuis de santé, le oui aux Français, ADN, biotechnique, amitié avec Galien. On lui parle de ses collaborateurs, de ses collaborations avec la France. Une heure d'information, une demi-heure de questions pour voir si ça enregistre bien.
tout va bien, l'on n'attend plus que le receveur.
Dans la nuit, on est allé reprendre le corps de Guillaume. Mais cette fois, l'on met un autre corps maquillé et habillé comme lui. Parce que deux fois enlever le même corps, cela risque de faire jaser. Et que dire à la mère? Tandis que là, personne ne le saura.
Encore 2 kilomètres.
Le corps de Guillaume est nettoyé, regonflé. On lui met des pompes pour lui amener le sang et l'oxygène. On le réchauffe. Il ne reste plus qu'à attendre le pape.
Ricain dit à Danfort,
tout est prêt.
Danfort lui dit,
le pape ne veut pas venir, c'est perdu.
Ricain lui dit, dites à Galien, l'élu, de lui dire de venir.
Danfort lui demande, sous quel prétexte?
Ricain lui dit, celui d'amitié. Danfort demande un entretien à Galien, qui veut bien le recevoir.
Entrez, c'est Danfort. Venez vous asseoir.
Bien.
Je vous écoute.
Tout est prêt. Il ne me manque plus que le pape. Il ne veut pas venir. Il n'y a que vous qui pouvez le faire venir.
Galien lui demande, et sous quel prétexte?
L'amitié. Vous lui direz que le saint curé d'Ars est votre saint préféré et que vous serez là vous aussi. Ce qui vous permettra de passer un moment d'amitié avec lui.
Bien, je vais tâcher d'écrire cela.
C'est ce qu'il a fait. Pape, en lisant la lettre, est fou de joie. Il va pouvoir passer un moment avec son ami.
téléphone à son secrétaire.
Allô? Pouvez-vous venir? J'ai à vous entretenir de quelque chose. Venez tout de suite. Merci. Entrez.
Entre le secrétaire.
Venez vous asseoir.
Il parle à son secrétaire qui lui dit
« Encore plus impossible. Vous vous rendez compte? Le président du groupe jeune tout, celui qui a l'ADN de Dieu, les gens vont croire que vous le lui avez vendu. Il faut absolument refuser cette invitation. »
Le pape lui dit
« Mais à moi, ça aurait fait tellement plaisir. »
Le secrétaire lui dit
« C'est impossible, votre sainteté. Ce serait un scandale. » Trop terrible. Même les chrétiens diront que vous les avez volés de Dieu.
Bien, je dirai non.
La réponse est négative. Jean d'Enfort ne sait que faire. Il va le dire à Galia.
Entrez. Entre d'Enfort. Venez vous asseoir.
Gaïa lui dit « Or, le cerveau de mon ami est prisonnier à jamais du pape. »
L'enfant lui dit « Hélas, oui. »
Gaïa lui dit « S'il faut y passer, nous devons le faire. On tue le pape et on prend son cerveau. Comme cela, on n'a même pas à lui mettre l'autre. »
L'enfant lui dit « Et ils vont élire un anti-français. »
« Alors que faire? Faisons en élire un autre, comme la première fois. »
On en choisit un, on lui donne un autre cerveau et on fait chanter les cardinaux.
L'enfant lui dit,
il y a un autre problème. Comment tuer le pape et comment faire pour amener le cerveau jusqu'à Paris?
Galien lui dit,
il doit bien y avoir une solution.
En admettant que le pape soit tué, quel sera le nouveau?
L'enfant lui dit, un Italien. Le plus jeune possible, pour qu'il puisse bien recevoir le nouveau cerveau. Je vais chercher.
Galien lui dit, et le nouveau cerveau sera celui de Donetti, puisqu'il est prêt.
L'enfant lui dit, oui, mais il lui restera à avoir les informations du nouveau donneur. Donc cherchons le nouveau pape pour donner les informations au cerveau. Ensuite, l'on tue l'ancien, en lui prenant le cerveau de Guillaume.
D'Enfort cherche sur la liste des cardinaux celui qui pourrait le mieux aller. Il choisit un Fetti, homme de 59 ans, grand, mince, cheveux châtains, visage noble. Homme sans histoire, ni liens familiaux. Il a fait ses études à Paris, aime bien manger, l'opéra, les voyages, pas de maîtresse ni de petite amie, politique de droite, et aime bien vivre. D'Enfort a toutes ces informations par le primat des Gaules, qui est un de ses amis d'enfance et le primat fait surveiller le cardinal Fetti par un de ses amis à Rome. Danfort va voir les gens qu'il fréquente à Paris, où il aime vivre et où le cardinal est souvent invité. En Italie, Fetti sympathise avec un Français qui lui demande « Il paraît que vous aimez beaucoup Paris ?»« Oui, j'ai fait mes études. » »« Vous y avez gardé des amis ?»« Oui, beaucoup. Artistes, comédiens, peintres, musiciens. » »« Des gens connus ?»« Certains, oui. D'autres, moins. Par exemple, Frédéric Tocoma. » Marc Rossillon, le Pierre-Marc Rossillon, Frédéric Thomas. Ah oui, Frédéric Thomas. Et vous avez l'intention d'aller séjour à Paris? Non, pour le moment. Mais si je suis invité, je ne dirai pas non. Une invitation de Frédéric Thomas? Oui, pourquoi pas. On enregistre plus d'informations sur Fetti. On se renseigne sur ses écoles, quartiers où il habitait, ses goûts pour manger, boire, habillement, voyage, souvenirs familiaux, religieux, études, travail, fréquentation. Danfort va tout dans tous les endroits où il y est allé.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.